avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino. Sud Radio, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio, par exemple à Bordeaux. On va en parler sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu important pour vous, les Pio. C'est la journée des femmes.
La journée des droits des femmes.
Ouais, des droits des femmes.
Et quoi. C'est très différent.
C'est très différent et c'est très important.
Absolument.
Alors, on parlera de la clairette de Bellegarde, des coups de cœur de David Cobold suite au salon Wine Paris Vin Expo, le principe de la biodynamie, on va enfin comprendre, et le Vino Quiz pour gagner un très beau cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, dont Hélène Pio, vous l'avez entendu, mais également Philippe Forbach, Pierre Guigui, David Cobold. Bonjour à tous les quatre, donc.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal, en compagnie par téléphone de Sylvie Courcelle. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Alors, vous êtes copropriétaire de ce château Thieulet. Racontez-nous un peu, c'est l'histoire de famille, là, depuis près d'un siècle.
Oui, tout à fait. C'est un domaine, une propriété viticole que j'ai repris avec ma sœur Marie.
Que l'on salue. Voilà.
Voilà, tout à fait. Que j'ai repris, que mon grand-père avait acheté à la fin des années 40. Il était avant vigneron en Côte de Castillon et puis il avait migré dans l'entre-deux-mers. Que mon père a développé en surface et en notoriété les 30 des années, on va dire 70, à jusqu'à notre arrivée. Et puis nous avons repris la propriété il y a une petite quinzaine d'années, toutes les deux.
Propriété dirigée par les femmes.
Oui, tout à fait. Après des études d'agriculture et d'œnologie, on a souhaité revenir au bercail, comme on dit.
Parfait. Hélène ?
Alors effectivement, ce domaine désormais féminin, Sylvie, vous l'avez vraiment révolutionné avec votre sœur. Bon, c'est une marque de fabrique, hein, parce que votre père avait un peu révolutionné les vins blancs de l'entre-deux-mers. Donc vous êtes arrivée avec votre sœur et c'est une petite révolution aussi, parce que vous avez repris le flambeau, bien sûr, mais vous avez ajouté beaucoup de nouvelles cuvées ces dernières années. Alors par laquelle on commence? Par un petit Courcelle, par Tombe Lune, par les deux sœurs?
Alors ça s'est fait progressivement, on n'est pas arrivé, on n'a pas tout changé du jour au lendemain. Mais à travers nos rencontres, à travers nos voyages et à travers nos expériences, on avait d'abord envie de tester deux cépages qui n'étaient pas autorisés dans le cahier des charges des appellations d'origine de Bordeaux. Donc on a planté Syrah et Chardonnay. Voilà, le but au début, c'était vraiment un peu expérimental, mais c'était deux cépages qu'on avait adoré vinifier ailleurs, dans d'autres pays et dans d'autres régions françaises. Et on s'était dit, bon voilà, je suis sûre qu'on était certaine qu'à Bordeaux, ils pouvaient bien évoluer, ces deux cépages, et on avait très envie de le tester. Donc en fait, après, c'est décliné une gamme vin de France. Et puis ça nous a permis un peu de décloisonner un petit peu l'esprit dans lequel les vins de Bordeaux étaient parfois enfouis, et puis de créer des étiquettes, des cuvées un peu plus rigolotes que ce que nous permettait un petit peu le côté traditionnel des châteaux bordelais.
Alors justement, ces cuvées rigolotes, on va en parler. Alors par laquelle on commence? Parce qu'il y en a tellement, là, c'est quoi?
La première, c'est copain-copine. Parce que pour nous, le petit Courcelle est la première cuvée vin de France. C'est nos petites cuvées de bistrot, de comptoir même, j'ai envie de dire. Et proposer des vins faciles à boire, fruités, gouléants, et avec un petit vide, un petit goût de reviens-y, quoi, voilà.
Oui, et puis des étiquettes rigolotes, un peu façon BD, avec des fautes d'orthographe volontaires, mais corrigées sur l'étiquette.
Voilà.
Voilà, des cuvées assez, assez drôles, et on voit bien tout de suite que ce sont des vins de copains, effectivement. Et puis, il y a une autre cuvée qui est importante, c'est la cuvée Tombe Lune. Alors là, on est sur un vin de France rouge en Cabernet Sauvignon, vinifié avec des rythmes lunaires, des jours fruits, sans soufre ajouté. On est quand même très proche de la biodynamie, là.
Alors, on est très proche. Après, nous, on est persuadés, Marie et moi, alors on a une expérience très scientifique, et on a fait des études assez scientifiques. Cependant, on est convaincu de l'effet de la lune sur nos comportements, l'effet de la lune sur le comportement du végétal. Et c'est vrai qu'on a vu que suivant si on se situait en jour fruit, en jour feuille, en jour racine ou en jour feuille, ben le vin se dégustait pas de la même manière.
Sylvie, David Cobold a une question pour vous.
Alors, oui, d'abord un constat
ensuite à une question. D'abord, un constat actuelé, pour moi, c'est un domaine de référence, et depuis longtemps à Bordeaux, vous avez vraiment fait des choses splendides, vous et votre père. Deuxième remarque, est-ce qu'il est censé de dire que lorsqu'on est assujetti à la Lune, qu'on est lunatique?
Ça, c'est de l'humour, Sylvie. Mais il n'est pas encore complètement français, David. Non, hein, donc, il y a encore quelques séquelles.
Je pense que cet adjectif lunatique vient du fait que la Lune joue un rôle sur notre comportement.
Allez, Pierre Guigui va chez le coiffeur les jours de pleine Lune et
on voit le résultat. Hein.
Étymologiquement, effectivement, Sylvie, vous avez raison, c'est lié. On est lunatique quand on a des humeurs liées à la Lune. Alors, on va poursuivre sur vos cuvées. Vous avez aussi les deux sœurs, justement, avec un hommage à ce que vous faites, Marie et vous.
Oui, là, parfois, on nous disait, c'était très drôle, pendant 10 ans, on nous a dit, oui, à Bordeaux, vous avez de grands châteaux, mais vous n'avez pas assez de vignerons pour les incarner. Alors, ça nous embêtait, parce que nous, on se bat au quotidien pour faire un travail de qualité, pour prouver qu'à Bordeaux, il y a de grands vins, il y a de grands vignerons. Et donc, on s'est dit, on fait un Bordeaux, mais il n'y a pas de nom de château. Il n'y a pas de bois dans ces deux cuvées, c'est des cuvées élevées sur lit en cuve béton, que ce soit pour le rouge ou pour le blanc, et c'est des assemblages qu'on a eu beaucoup de bonheur à faire. On a signé une bouteille, et signer une bouteille soi-même, c'est quand même quelque chose d'assez intime et d'assez fort quand même, on s'est aperçu.
C'est Sylvie, avant le coup de cœur d'Hélène, il y a un élément important dans le vin, c'est le bouchage, hein, pour que les bouteilles vieillissent bien. Vous trouverez comment vous ?
Alors, nous, on travaille depuis 2006 avec le procédé Diam, avec des bouchons Diam, qui est un procédé technique qui permet d'avoir une garantie de neutralité, si vous voulez, en termes de goût de bouchon. Donc, il n'y a pas de goût de bouchon dans ces bouchons. Et surtout, une super homogénéité entre chaque bouchon.
Entre chaque bouchon. Hélène, le coup de cœur, ça y est, la sentence. Alors, votre coup de cœur.
Alors, justement, moi, je veux témoigner que ce bouchage sert, entre autres, à bien préserver les vins et à les faire vieillir harmonieusement, puisque mon coup de cœur du moment, c'est le château de Cholet, alors on va dire classique, hein, la cuvée Francis Courcelles en appellation Bordeaux Blanc, donc dans un millésime déjà un peu posé, c'était 2015, et j'avais lu une proposition de Sylvie qui proposait un millésime plus jeune avec une poêlée de crevettes au safran, et ben j'ai tenté sur ce 2015, ça marche très très bien aussi, j'ai ajouté une pointe de gingembre et c'était top.
Et le prix, comment ça vaut?
Ça coûte 8,50€, Château de Cholet, cuvée Francis Courcelles. Donc à 10€, pardon, la cuvée Francis Courcelles à 10€.
Cadeau quand même.
Presque cadeau.
Mais cadeau quand même. Ouais,
super fait.
Ça passe en marée, mais ça ne se sent
merci
pas.
Merci beaucoup, Hélène. Merci également à vous, Sylvie. Une vidéo Sud Radio. On retrouve maintenant Philippe Aubrac, président de la Sommelier française, pour nous parler de la Clairette de Bellegarde. Est-ce que ça vaut 10€ la bouteille, ça aussi?
Ça vaut à peu près 10€.
Ah ben voilà, c'est presque, la journée 10€.
Presque au maximum, parce qu'il y a
tout
y a
à 10 euros.
Toutes les cuvées qui sont en moins, puisqu'il y a même une cuvée qui est à 5€ dans cette appellation. Alors c'est Bellegarde. C'est vrai que c'est
dans la montagne.
C'est pas tout à fait.
Pas non, tout
c'est
à
dans,
fait.
Dans la gare.
C'est vrai qu'il y a le massif de la Bellegarde, effectivement, du côté de l'Isère, de la Savoie. Là, on est juste à côté d'Arles. Donc,
c'est dans le Gard.
Sud, exactement. On est à la limite entre le Gard et les Bouches-du-Rhône, finalement, et plutôt dans le Gard, puisqu'on est précisément du côté de Saint-Gilles-du-Gard, au cœur de l'appellation des Costières de Nîmes, effectivement, où s'abrite cette petite appellation. C'est, quand je parle de petite appellation, c'est vraiment une petite appellation, parce que la Clairette de Bellegarde, ça fait à peu près une dizaine d'hectares.
10 hectares.
Oui, mais c'est pas très grand.
On tutoie la Romanée Conti, là.
Faut pas cligner les yeux quand on passe.
Exactement. Il y a 3-4 domaines dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est exactement entre Beaucaire, donc ville ô combien célèbre, notamment à l'époque gallo-romaine, et Saint-Gilles qui a vu arriver les premiers plans de cépages célèbres, puisque c'est le plan de Saint-Gilles qui est une autre que le Mourvèdre, venu de l'Espagne voisine également. Alors, on y produit, ça s'appelle la Clairette de Bellegarde. Alors, c'est pas très compliqué, le cépage, c'est la Clairette. 100% Clairette. Alors, il peut y avoir différents types de Clairette, la Clairette blanche.
Vous avez compris, Pierre Guigui, on commence.
Oui, jusque-là, je suis à peu près. La Clairette grise, etc. On y produit donc que des vins blancs.
On va aller faire une version simplifiée après, parce que.
Oui. Exactement. Qui profite de ce climat typiquement méditerranéen. On est vraiment pris presque direct avec la Méditerranée. Donc, c'est un climat plutôt assez chaud. Heureusement qu'il y a un petit peu de temps en temps le vent frais qui souffle dans le coin, c'est le Mistral. Donc ça assainit non seulement la ville, mais ça, en même temps, ça rafraîchit l'atmosphère. Et ce qui est très intéressant, notamment pour préserver l'acidité dans ces vins. Alors, une époque, on avait des clairettes qui avaient tendance à s'oxyder un petit peu rapidement. Et donc, ça donnait une nature de vin qui était des vins d'une époque. Aujourd'hui, on fait des clairettes avec beaucoup plus de précision, avec effectivement un travail sur les techniques de froid, d'élevage, etc., qui préservent de cette oxydation. Et on a des clairettes qui sont remarquables de fraîcheur, de notes un peu plus florales, notamment le tilleul qui est là, qui vient d'une façon agréable, agrémenter les parfums. Et surtout, ce qui caractérise d'ailleurs souvent les grands vins, c'est la fameuse saveur d'amertume qu'on a dans les grands chenins, qu'on a dans les grands rouges du Bordelais ou d'ailleurs. Et c'est ce qui donne la profondeur, la densité et aussi le relief qui permet d'avoir des éléments gastronomiques très intéressants. Alors, il n'y a pas beaucoup de domaines, j'ai dit tout à l'heure, il y a la cave coopérative de Bellegarde, qu'on appelle la cave de Bellegarde.
Qui a 9,50 hectares. Alors qu'il reste donc 50
arbres. Mais il y a quand même une douzaine de producteurs qui amènent leurs raisins. Alors c'est juste des fois voilà un quart d'hectare. On peut presque parler en ouvré comme les bourguignons. Enfin,
parler voilà. En grappe de raisins.
Mais pourquoi pas. Ils amènent quelques kilos de cette fameuse crête qui a droit à cette appellation. Mais c'est une cape qui existe depuis 1929.
Allez, citez-nous les 12 meilleurs vignerons par exemple.
Non, il y a pas 12. Et donc et qui donne souvent des clairettes avec un caractère pas oxydé, mais avec ce côté un peu fruit sec, l'amande par exemple qui est là, qui est très intéressant.
Et on peut l'associer à quoi
presque
au niveau gastronomique?
Un peu sureau. Alors avec les poissons, ça marche très bien.
D'accord.
Les poissons méditerranéens, les sardines, le maquereau, etc. Ça va particulièrement bien. Sur les fromages également, chèvre, il y en a un certain
nombre. C'est un nombre. Poisson de la Méditerranée.
Non, mais
on n'empêche au Méditerranée aussi. Hein. Macro. Il y a la sardine aussi. Il y a les poissons bleus.
Oui, mais le maquereau non.
On trouve en Méditerranée.
Même il y a beaucoup de maquereau dans le sud, vous savez.
Ça, voilà. Mais notamment
en lui tend une perche, il le saisit très vite.
Mais une
belle sardine.
Voilà. Et d'ailleurs, non, je vais pas faire de.
Non.
Voilà. Enfin, en tout cas, c'est très bon. Et avec le maquereau ou d'autres poissons de ceci là,
ça marche
un petit peu gras, ça fonctionne très bien. Le château des Sources de la Marine, très joli domaine également, qui appartient à la famille Tessonnière. Ils étaient en cave coopérative, mais ils en sont sortis il y a quand même quelques années. Ils produisent également vin plutôt typique, relativement simple, extrêmement précis. Ça va très bien, par exemple, pour le coup, avec des fromages. Je trouve des fromages de chèvre particulièrement intéressants. Leur première cuvée est à 5 euros.
Enfin, c'est quand même super aller,
accessible. Quoi. Et le dernier s'appelle le Mascarlo. C'est un peu la vedette de l'appellation. Là, on est plutôt entre 10 et 12 euros. Mais ça vaut la peine. Il y a une complexité. Ça donne des vins plus de garde. Et plus à Bellegarde, faire des vins de garde. Il y a une certaine légitimité, mesdames et messieurs.
L'émission. Merci beaucoup, Philippe Forbach. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave, Nicolas, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio, notre Hélène Pio chérie, et puis pour le Vino Quiz.
Oui, et j'ai une bonne nouvelle, vous allez enfin vous y connaître en vin.
Ah ben voilà une bonne nouvelle.
C'est le titre du livre de Sébastien Durand-Viel et David Cobold que vous allez gagner cette semaine si vous répondez à notre question. Pour quelle revue Fabien Humbert est-il journaliste? Réponse A, la revue du Pain de France, c'est In Vino Boulangerie. Réponse B, la revue du Bain de France, In Bagno Veritas.
Oui.
Et ou la réponse C, la revue du Vin de France. Pour répondre et gagner ce livre, vous allez enfin vous y connaître en vin, de Sébastien Durand-Viel, David Cobold. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène Pio, aujourd'hui en ce journée des droits des femmes, ma chère Hélène. Hein.
Des droits des femmes, absolument.
C'est important. Hein, voilà.
Oui, parce qu'on ne veut pas des fleurs, en fait, on veut juste les mêmes droits que les garçons.
Nous
les salaires...
à 100% d'accord avec vous.
Des trucs normaux, quoi.
Invino Studio Radio, on retrouve David Cobold, qui lui aussi défend le droit des femmes, cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler de ses récent coup de cœur à l'occasion du salon qui s'est déroulé il y a déjà quelques temps, Vinexpo et Wine Paris.
D'ailleurs, il y en a un sur les quatre coups de cœur qui domaine géré entièrement par des femmes.
On va commencer par celui-ci, non?
Absolument.
Absolument.
Donc, c'est des choses qui me sont restées vraiment dans l'esprit, dans le cœur, dans la tête après mes trois journées dans ce salon où j'ai goûté beaucoup de vins de partout.
Et l'organisation était parfaite pour vous? Ça a l'air tout allé bien?
Oui, très bien.
Il faut le dire aussi quand ça marche bien.
Oui, il faut le dire. Parfois, le fléchage pour trouver les salles de
les toilettes,
conférence,
dire,
c'était un peu
les toilettes,
difficile. Non, les toilettes, ça
allait. D'accord. Oui.
Non, très bien. Alors, on va commencer dans le Languedoc, à Minervois, avec le Clos Santeil. Le Clos Santeil appartient à une femme extraordinaire, Patricia Domergue, et maintenant sa fille qui fait les vins. Et Patricia, après la mort de son mari avait fait un travail formidable en conservant des cépages qui allaient disparaître du Languedoc. Donc ils ont sur ce domaine qui n'est pas très grand, je ne me rappelle pas la taille, mais c'est une quinzaine d'hectares, une vingtaine d'hectares. Pierre, vous le savez, vous ?
Je crois de mémoire, c'est autour de 15-20 hectares.
Autour de 15-20 hectares. Mmh. Ils ont 13 cépages différents.
C'est énorme.
Alors, dont une partie sont exclus de l'appellation Minervois, d'ailleurs. Donc, ils font des vins en dehors de l'appellation et dans l'appellation. Elle a lutté pour maintenir cette spécificité. Elle a très, très bien fait. Donc, elles font maintenant une série de vins qui sont tous en finesse. Et c'est ça qui m'impressionne le plus. Souvent, le Languedoc, les vins sont puissants, certes. Ils sont pleins de saveurs. Mais parfois...
Voilà. Ça, c'est quoi ? C'est configuré, voilà. Votre truc, là ?
C'est un peu lourd, quoi. C'est ouais. Un peu chaud. Là, c'est tout en délicatesse. Donc, c'est poli comme une pierre qui a roulé dans la mer pendant très longtemps. C'est suave, c'est élégant. Il y a de la fraîcheur, il y a des saveurs, c'est très riche.
Ça donne soif, ce que vous racontez, David Cobold.
Oui, avec modération, mais ça donne soif quand même.
Autre chose rare, elle conserve les vins jusqu'à soi buvables. Elle ne se dépêche pas de les vendre de suite. Parfois, les vins ont 5 ans, 10 ans avant la mise en vente. Et c'est très rare. Donc, moi, chapeau à ces deux femmes. Elles font vraiment des vins qui, moi, m'enchantent.
Combien ça coûte à peu près le...
Alors, c'est très variable. Ça va, c'est pas excessivement cher, mais ça peut aller de 10 euros pour les premières prix jusqu'à 20, 25, 30 euros. Et parfois, pour des vins qui ont 10 ans d'âge.
Oui, donc, c'est ça, prêt à boire et qui ont déjà passé du temps.
Peut-être un peu plus pour certains cuvées. Donc, c'est souvent des micro-cuvées et tout est gardé en référence. C'est-à-dire qu'un client, restaurateur ou caviste qui achète du vin, il peut le trouver encore pendant
bien
longtemps.
Sûr. Et vous ça, c'est le service. Nom du domaine, David ?
Clos Santeir, C-O-N-T-E-I-2-L-E-S.
Deuxième coup de cœur.
Deuxième coup de cœur. Alors là, on va partir dans le sud-ouest. On va rester en France. Après, je vais vous amener...
Au pays des Anglais.
Bah, Jurançon, ce n'est pas exactement le pays des Anglais. Encore qu'à Pau, il y avait une garnison militaire anglaise. C'était après Bordeaux, c'était la deuxième ville de province, et après Le Havre, bien sûr, à développer le rugby à cause des Anglais. Hein, Pau. Mm-hmm. Donc Pau, je vais vous parler de Lionel Osma. Lionel Osma, c'est quelqu'un de formidable qui a démarré une activité dont je vous parlerai la semaine prochaine. Mais un de mes coups de cœur, c'est un Jurançon qui n'est pas encore en vente. Il a acheté avec son associé ou ses associés deux parcelles très bien situées en Jurançon. Et il a produit avec le petit Mansinque, qui est en général réservé plutôt pour les vins doux.
Alors ça, c'est quoi ? C'est le nom d'un raisin, ça, non ?
Cépage. Petit Mansinque, avec un G à la fin, Mansinque. Petit Mansinque, il y a le gros Mansinque. Il est plus gros, hein, le gros Mansinque. Le gros Mansinque, en général, fait les vins secs, et le petit fait des vins doux. Mais là, il a expérimenté, il a fait un vin sec avec le petit.
Pourquoi faire et simple alors qu'on peut faire compliqué, non ?
Non, parce que c'est plus concentré. C'est une vraie expérience et comme les baies sont plus petites, les saveurs sont plus concentrées.
D'accord.
Et on a un vin absolument fabuleux. Moi, ça m'a ému ce vin. Je le goûtais, je dis, mais quand est-ce que tu le vends ce machin ? Parce que je veux en acheter tout de suite. C'était plein, c'était extrêmement frais parce que l'acidité est forte, mais il servait de la rondeur, ça avait de la profondeur, ça avait de la longueur en bouche. Un grand vin blanc. Donc je ne sais pas encore comment...
Allez, troisième et dernier coup de cœur peut-être, David. Le prix quand même, combien il vaut là, votre super coup de cœur?
J'en sais rien parce qu'il n'est pas encore en vente. Mais suivez Lionel Osma et vous allez le
ça,
voir.
Ça c'est de l'info, David. Alors.
Oui, c'est de l'info. Alors, le troisième, je vais vous amener en Autriche avec un domaine qui s'appelle Schloss Goebelsberg, qui est dans la région de Kamptal. Et là, qui produit une série de vins aussi bien avec le Grüneveltliner, qui est peut-être le cépage emblématique de l'Autriche, c'est 30% du vignoble autrichien, mais aussi des très très grands Riesling, côte à côte. Et c'était la plus belle série de vins que j'ai goûté au salon, puisque tout était bon à partir de l'entrée de gamme. L'entrée de gamme se situe entre 12 et 15 euros. C'est pas des vins donnés.
Oui, c'est pas donné quand même, évidemment.
Non, mais bon, on est dans le très très bon.
Des vins blancs, donc.
Des vins blancs. Oui, Grüneveltliner, cépage blanc, Riesling, cépage blanc. Donc que des vins blancs, mais il fait aussi du rouge avec le Zweigelt et avec le Saint-Laurent.
Les noms sont quand même dingues de cépages. Hein.
Bah, on est en Autriche, on parle allemand, il faut s'accoutumer à notre
langue. Très bien, très bien, David. Oui. Hein.
Donc une gamme impeccable, aucun défaut dans la gamme, et on graduait vers l'intensité, vers la longueur en bouche, vers la complexité, en montant jusqu'à des vins qui font 40-45 euros pour des crus parcellaires. Parce qu'ils ont une notion de Erste Lagen en Autriche, qui est l'équivalent des premières crus
des
en Bourgogne.
Des premiers crus, quoi. Il y a une adresse, un site peut-être
Schloss Goebelsberg, vous tapez Schloss Goebelsberg.
Comme ça, c'est écrit, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de commandes là, c'est sûr que c'est. Merci beaucoup, David Cobold. Voilà. Invino Studio Radio, on retrouve Pierre Guigui, fondateur et directeur du concours international des vins biologiques et en conversion. Là, au moins, on comprend. Pour évoquer les principes de la biodynamie. Alors, quoi? Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Il y avait un philosophe autrichien qui était un grand démocrate. C'était qui, là?
Alors, oui, d'abord, c'était forcément un grand démocrate, puisque le mouvement nazi n'existait pas à l'époque. Donc, on peut pas trop l'associer à. Steiner n'a pas pu être associé au mouvement nazi. D'ailleurs,
Même s'il y avait un jardin biodynamique à Dachau.
D'une part, et que ces idées politiques n'étaient quand même pas complètement à gauche.
Non. Hein. Alors, oui, comme beaucoup de gens à l'époque.
Tout n'était pas intelligent chez le garçon.
Alors, revenons sur ce
qui est intéressant chez Steiner, c'est qu'il est complètement adulé, soit il est complètement méjeté.
Là, il y a quelques-uns qui n'aiment pas trop, et on peut les comprendre.
Il faut savoir que plein d'auteurs français avaient les mêmes propos. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, à une époque, on pensait de cette façon-là. C'est pas forcément la meilleure façon de penser, bien évidemment. Pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Et ce qui est intéressant chez Steiner, c'est qu'il a apporté une réflexion par rapport à l'agriculture biologique. C'est le premier qui a dit il faut absolument pas. En 1924. Il y avait très peu de produits phytosanitaires, il n'y avait que les engrais qui existaient à l'époque. Les pesticides n'existaient pas, les insecticides n'existaient pas, il n'y avait que les engrais qui existaient. Et déjà à cette époque-là, en 1924, il a dit pas d'utilisation de produits phytosanitaires. C'est-à-dire que pour lui, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir des produits qui sont utilisés, proviennent du même lieu. C'est la notion d'entité. Alors c'est intéressant parce que cette notion d'entité, elle ouvre à une réflexion qui est ce qu'on appelle l'holistique. On ne va pas analyser un phénomène juste pour lui-même, on va analyser le phénomène dans l'ensemble de l'entité globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir dans la vigne, par exemple, si on a besoin de plus de rendement, on ne va pas mettre un produit extérieur qui risque de poser le problème.
Et comment on fait pour avoir plus de rendement? On lui parle à la vigne, on la motive.
Exactement, on leur parle, oui. Non, on met tout simplement des engrais organiques.
D'accord.
Tout simplement.
Et ça marche aussi bien.
Et
des produits à proximité. Et dans l'esprit de ce qu'on appelle botanique GOTN, qui consiste à utiliser des produits immédiatement présents à. Pas par hasard, parce que la nature est faite de telle façon que finalement les plantes se développent en complément des autres.
Très bien.
Ce qui est intéressant, c'est cette notion d'entité. C'est une notion qui respecte l'holistique. On ne va pas soigner un élément, une maladie. On va essayer de comprendre tout l'ensemble de l'entreprise et de la ferme ou du vignoble pour essayer d'intervenir en considérant les conséquences après. Qu'est-ce qui peut arriver après si je l'interviens de cette façon-là? Ça, c'est la première notion, on va dire, de Steiner. Et donc, je rappelle encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut faire de l'agriculture biologique. Il était en 24, il propose déjà l'agriculture biologique.
Ça, c'est innovateur.
Complètement. Et la deuxième chose, c'est la forme d'observation. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'observation qui consiste à, par exemple, ce que disait Goethe, parce qu'il était, était lecteur de Goethe et il a même classé les œuvres de Goethe après. Goethe disait, on peut observer une feuille en se posant la question, entre guillemets, la photosynthèse, entre guillemets. C'est-à-dire, quelle est l'influence de la lumière sur la feuille? Et Steiner et Goethe, donc au préalable, Goethe disait, il faut aussi considérer la feuille dans tout son ensemble, à savoir la couleur, son odeur, que lier un phénomène de photosynthèse, par exemple, c'est intéressant, mais il faut aussi l'associer à tous les éléments de la feuille. C'est-à-dire que la visibilité, la lecture, l'observation qui consiste à observer avec un microscope ne donne pas une vision globale.
C'était parcellaire. C'est un tout.
Et ça, c'est aussi un élément important chez Steiner. Et Steiner, bien sûr, avait des propos qui étaient extrêmement racistes, ça c'est évident, mais il avait aussi des visions assez étonnantes. Par exemple, il a dit très rapidement, attention, si la vache mange de l'animal, elle deviendra folle. En fin de compte, il ne parlait pas de vache, il parlait de bœuf. Mais on se rend bien compte qu'il a eu des visions assez intéressantes, qui ont anticipé quand il disait, il faut faire attention parce qu'on va dégénérer le végétal à force de le forcer, entre guillemets, à force d'aller vers une production industrielle, il vaut mieux ne pas forcer le végétal, le respecter pour avoir une production qui soit
plus raisonnée.
Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Steiner et ce que disent la plupart des grands producteurs qui sont en biodynamie, c'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les méthodes, qu'on soit d'accord avec Steiner ou pas d'accord, je trouve que c'est pas si important tant que ça. C'est vrai que c'est pas une méthode scientifique, ça c'est clair.
Donc c'est empirique.
C'est empirique.
Et jamais, jamais il y a eu une preuve que la biodynamie produisait de meilleurs raisins que de non-biodynamie côte à côte. Hein. Jamais.
Non, mais au-delà de la vigne, le nombre de jardiniers qui suivent ces préceptes et qui s'en trouvent beaucoup mieux que quand ils ne les suivent pas est assez phénoménal. Que jardinier professionnel ou jardinier du dimanche, on va dire.
Bon, le principe actif, c'est le temps passé à observer.
Si on prend la revue des vins de France et on regarde la liste des meilleurs domaines, il y a une majorité de vins en biodynamie. Dernier point, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il va systématiquement proposer l'observation.
Merci beaucoup Pierre Guégui, merci également à vous Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobold. Merci également Angéline et Charlotte qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas Le Cavis, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations. Salut.
Invino avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.